Chères auditrices et chers auditeurs, avant de vous laisser écouter cet épisode, l'équipe Cultura et moi-même tenions à vous informer que la communauté Cultura Créa ferme ses portes fin avril 2024 pour mieux se réinventer plus tard. Nous vous remercions donc très sincèrement pour toutes vos écoutes du podcast, vos retours et votre bienveillance à l'intention des créatifs qui sont passés au micro du podcast. Membres de la communauté et collaboratrices et collaborateurs de Cultura, un grand merci à vous pour cette expertise et cette passion partagée autour du DIY et des beaux-arts. Nous nous sommes régalés. Du côté du podcast, les épisodes restent en ligne, donc vous pouvez continuer d'écouter ou de réécouter les épisodes autant que vous voulez. Je vous invite par exemple à écouter les épisodes autour du macramé, des mangas, de l'argile, des feutres à alcool, de la broderie, du moulage de savon et de bougies, ou encore du tricot. Vous ne devriez donc pas manquer d'inspiration créative pendant les prochains mois. On vous donne évidemment rendez-vous sur cultura.com pour la suite des aventures.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cultura Créa. Je m'appelle Mélanie Sena et je suis ravie de vous retrouver pour parler loisirs créatifs et beaux-arts. Deux fois par mois, je partage avec vous des rencontres avec les équipes de Cultura et avec les membres de la communauté Cultura Créa. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, que vous préfériez créer seul ou en famille, nous vous parlons de tous ces arts créatifs que vous aimez. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Sarah et Julie, toutes deux chefs de produit au sein du Lab, le siège de Cultura à Bordeaux. L'été a démarré et vous commencez sans doute à préparer les vacances. On vous propose donc un focus sur les activités créatives à faire en famille. Julie et Sarah ont eu énormément d'idées sympas pour créer avec les enfants et il y en a pour tous les goûts. Allez, bonne écoute!
Bonjour Julie, bonjour Sarah, je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Cultura Créa, bienvenue!
Bonjour Mélanie!
Bonjour.
On se retrouve aujourd'hui pour parler de loisirs créatifs pendant les vacances. Donc, on va discuter d'activités créatives qu'on peut faire avec nos enfants ou seuls pendant cette période où on est normalement un peu plus détendu, il fait beau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Julie, tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, bien sûr, bonjour. Donc moi c'est Julie, je suis chef de produit chez Cultura sur la partie fêtes et événements, donc tout ce qui tourne autour du mariage, des anniversaires et toute autre fête.
Très bien. Et toi Sarah?
Je suis Sarah, je suis également chef de produit et je m'occupe des activités créatives pour enfants. Donc pour les éveiller et leur apprendre plein de choses en créant et en découvrant le monde.
Voilà, en s'éveillant grâce à la création, à la créativité.
Tout à fait.
Parfait. Alors chef de produit, juste peut-être nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Parce que jusqu'à présent sur le podcast, on a reçu des membres de la communauté Cultura Créa et plutôt des personnes qui étaient conseillères de vente. Alors je vais dire conseillère et conseiller parce qu'on avait aussi un homme. C'est quoi ce métier de chef de produit?
Alors on peut en donner une, on va dire une définition courte. Il s'agit, pour faire très rapidement, de déterminer les produits et les gammes de produits qui vont intégrer les rayons de nos magasins sur des sujets voilà prédéfinis.
C'est très clair. Donc, c'est vous qui choisissez ce que nous allons avoir entre nos mains, ce qu'on va avoir envie de tester, d'acheter et de faire. Et donc, effectivement, sur le rayon événement fête et puis sur le rayon activité d'éveil pour les enfants. Alors, Sarah, qu'est-ce que je fais cet été avec mes enfants?
Alors, la question est vaste.
Oui, la question est très vaste. Justement, j'allais la préciser. Est-ce que... alors, si, forcément, j'allais dire, est-ce que on... est-ce qu'on choisit en fonction de l'âge? Évidemment, on va pas faire la même chose avec des tout petits ou des plus grands. On choisit pas forcément en fonction du lieu de vacances, parce que finalement, globalement, il y a un point commun, il me semble, entre tout ça, c'est que on veut quelque chose de facilement transportable. On évite de prendre la machine à coudre dans les bagages, généralement, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants pour cet été?
Et ben, comme tu le dis, Mélanie, c'est vrai qu'on va privilégier des activités qui s'emportent facilement. Parce qu'on va être amené à prendre la voiture, à prendre le train ou à prendre l'avion pour les plus chanceux. Et donc, on a besoin d'activités qui se rangent facilement, se transportent facilement, voire on responsabilise l'enfant pour le transporter lui-même. Donc, on va trouver des coffrets qui sont dotés d'une petite poignée, ce genre de choses. Donc, avant tout, c'est la taille du produit et son format qui vont être son format transportable qui vont être importants. Ensuite, la distinction par l'âge, je la ferai pour ma part moins, mais Julie, qui est une heureuse maman, pourra nous préciser ce point. Moi, je ferai moins cette différenciation parce que pour moi, les vacances, on se retrouve en famille ou entre amis et on part rarement avec des enfants qui ont tous le même âge, ou alors oui, c'est un sacré hasard. Et donc, il faut une activité qui puisse être accessible pour une tranche d'âge assez large. Oui. Alors évidemment, les plus grands auront plus de dextérité et de facilité à la faire et pourront peut-être s'occuper des plus petits, quand les plus petits feront peut-être le projet de façon moins soignée, mais ils prendront tout autant de plaisir. Et donc, c'est ça qui est chouette aussi pour les vacances, c'est qu'on réfléchit à des activités plutôt sur le collectif, où on engage aussi les parents, les grands-parents, enfin la famille au global, les amis, les adultes,
oui,
dans tous les jours.
Oui, parce qu'il y a un autre point commun au fait que ce soit transportable, il ne faut pas non plus varier trop les choses, parce qu'on peut avoir plein de petites choses petites à la force, ça fait quelque chose d'assez volumineux. Donc effectivement, des activités communes, c'est intéressant. Et quand tu as dit ça, je pensais spontanément comme ça à l'argile. C'est quelque chose... Alors bon, peut-être que ça prend un peu de place, l'argile, le bloc d'argile, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah oui, non, et puis c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'après, c'est comment je fais pour ramener ce que j'ai fait en pâte autodurcissante. Parce qu'elles me font les gros yeux. Mais on a la vidéo aujourd'hui sur le podcast pour l'enregistrement. Oui, effectivement, si je fais un vase, bon, je vais être embêtée pour le ramener, quoi. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée.
C'est vrai que... Ou alors, on peut faire des petits contenants, mais il y a ce côté, ouais, c'est fragile.
Oui, c'est ça.
Il y a le côté, ça peut être encombrant si on est très inspiré. Mais c'est très bien si on est très inspiré. Mais... Ou alors, il faut qu'on puisse le laisser en cadeau à la personne, oui, que l'on va visiter éventuellement. Mais j'aurais pas cité en effet l'argile en premier lieu. Je sais pas, peut-être que Julie s'est déjà prêtée à l'exercice en vacances.
Il y a un élément qui est important aussi que je rajoute à la liste, c'est quelque chose de pas trop salissant. Parce que justement, il faut pouvoir le transporter, il ne faut pas que ça coule partout, il ne faut pas que ça... voilà, c'est... Puis même, c'est justement, si on prend l'avion justement toutes les contraintes qu'on connaît, il y a plein de choses qui ne sont pas possibles.
Ah bien sûr, c'est vrai.
Voilà, quoi qu'il en soit, dans les activités... Le premier choix, il se porte sur quelque chose évidemment de facile, collectif. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, sauf si on a un enfant unique, mais enfin voilà, mais grosso modo, il y a un collectif, il y a une communauté, et il est important de veiller à tous les occuper. Donc, moi, ce qui me vient en premier en tête, c'est quand même le coloriage.
Ouais.
Ça reste une valeur sûre. Et peu de... Finalement, peu de matériel à transporter. Je veux dire, voilà, il suffit de feuilles blanches, il suffit d'un bon lot de crayons ou de feutres avec tout un tas de couleurs, mais vraiment facilement transportable. Les enfants, quel que soit leur âge, fille ou garçon, pas de sujet, en fait... Ils aiment tous ça. Et quels que soient les âges, j'insiste là-dessus. Ouais. Et avec des niveaux de complexité, puisqu'il y a ceux qui vont vouloir faire, on va dire, du dessin libre et artistique. Et après, on peut partir, on peut complexifier avec des fresques à dessiner, avec les coloriages magiques, puisqu'en plus, ce sont des sujets et des thématiques qu'ils abordent à l'école. Donc, ça fait vraiment le lien. Et la partie vraiment coloriage magique permet de rendre l'activité encore plus amusante avec la surprise de voir ce que l'on a colorié à la fin. Donc moi, c'est l'activité numéro 1.
Oui, effectivement, c'est simple et efficace.
Je complète ce que tu dis aussi, Julie. Pour ceux qui ne connaissent pas le coloriage magique, on est sur un papier blanc avec un imprimé au trait noir et en passant en fait un stylo magique mais qui contient en fait seulement de l'eau finalement qui est rechargeable, les couleurs vont apparaître sur ce papier blanc. D'accord. Et donc on appelle ça le coloriage magique et c'est vraiment idéal pour les enfants qui ont entre 0 et 3 ans parce que en fait on est avec un support qui est un papier qui est pas dangereux pour l'enfant et un stylo qui est assez large et qui facilite la bonne préhension de l'objet pour un enfant qui n'a pas encore une dextérité très développée, une motricité fine très développée.
Tu fais bien de préciser parce que pour moi, les coloriages magiques, c'était ceux qu'on fait à l'école avec des additions ou des opérations mathématiques. Et donc, toutes les zones qui correspondent à un même chiffre, à un même résultat mathématique, tu les colories de la même couleur. Donc, c'est bien plus sympa ce que tu viens de décrire.
C'est plus rigolo en tout cas.
Non, il y a la version aussi simplifiée qui est en fait un point de couleur en fonction de la couleur qu'on doit choisir au milieu. Enfin voilà, ou alors un numéro sans parler d'une addition ou d'une soustraction, etc. Ouais. C'est juste un numéro où le 1 correspond à du jaune, le 4 correspond à du vert, etc. Et à la fin, on a la surprise de découvrir le dessin.
Voilà, quel que soit le type de coloriage magique, c'est quand même effectivement plutôt sympa pour les enfants qui aiment bien colorier. Et puis même pour les adultes, là pour le coup, du coup comme tu dis Julie, ça s'adapte pour tout le monde. Il me semble que les cahiers de coloriage ont un succès fou auprès des adultes et que a priori on peut déjà aussi bien se régaler et que c'est une activité très très détente. Finalement, on se concentre uniquement sur le coloriage et pas justement avoir le côté ah bah oui mais je sais pas dessiner etc qui peut rajouter une certaine difficulté ou une certaine appréhension.
Ah oui, ça peut même devenir une activité familiale lors des journées pluvieuses quand ouais. On est enfermé et qu'on n'a pas d'autres possibilités.
Très bien. Sarah, tu as d'autres idées? Alors peut-être que il y a aussi une approche où on peut préparer les vacances avec des activités particulières, après prévoir des activités pendant les vacances et puis après une partie un peu après.
Oui, c'est vrai que quand je réfléchissais à comment occuper justement les enfants au sens large pendant les vacances, je me suis dit en fait pour le développement de l'enfant et tout l'aspect éducatif que doit aussi porter un adulte auprès d'un enfant, c'est important aussi d'expliquer à l'enfant que l'année scolaire est finie, qu'on va partir en vacances. Et c'est pour ça qu'on a aussi, on va aussi peut-être se diriger vers des activités à la thématique mer, océan, fond sous-marin, ou si on part à la montagne, les animaux de la montagne, ou alors si on part en avion, on va peut-être en apprendre un peu plus sur la météo, comment ça se passe en avion, ou d'autres transports, si on part en bateau, c'est aussi hyper intéressant. Et ça crée des vrais échanges aussi entre l'adulte et l'enfant, parce que en fait, c'est comme si on racontait une histoire finalement à son enfant. Et puis, ça va lui permettre de s'éveiller, encore une fois. Et donc, en transformant l'histoire que l'adulte peut raconter en un coffret créatif sur n'importe quel usage du créatif, mais on va pouvoir récupérer la thématique. Par exemple, je pense à un petit coffret que l'on a chez Cultura qui permet de construire des petits avions avec une hélice qui plane. Donc c'est un tout petit coffret qui s'emporte hyper facilement. On construit ces 4 avions et puis ça nous permet de comprendre qu'un avion ça plane, de comprendre que les hélices avec l'air elles tournent. En tout cas si on parle que de force mécanique, ça peut marcher comme ça, même si évidemment aujourd'hui nos avions ne marchent plus tous comme ça en tout cas et donc c'est intéressant je trouve pour l'enfant et pour l'adulte d'anticiper tout ça avant de partir. Et puis sans compter le fait, on part aussi vers une destination, on part pas forcément chez papy mamie ou une destination connue. Si on part dans un pays étranger, il faut aussi absolument éveiller l'enfant à la géographie. C'est aussi l'occasion de lui faire découvrir un autre pays, des coutumes, une culture. Et du coup, on va aussi travailler tous ces points-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avant le voyage. Donc on peut, on imagine avoir par exemple un poster, si on est déjà en vacances et qu'on va, on va partir pour la destination de vacances, on peut s'imaginer colorier avant de partir un poster d'une map monde ou quelque chose comme ça. Il y a des choses hyper ludiques qu'on va pouvoir trouver dans nos magasins, sous la marque Omai par exemple, Omai Design, où on a toute une carte du monde ou de l'Europe ou de la France ou d'une région avec les monuments principaux à découvrir par exemple. Et donc ça, c'est vrai que l'enfant, il va pouvoir colorier le monument et puis ensuite il le découvrira en vrai, ça va faire écho et c'est en ça qu'on fait une activité qui est ludique et éducative à la fois.
Ouais, très bien, ouais, c'est une bonne idée pour préparer les choses et sans doute que les enfants vont encore plus s'en souvenir parce que l'apprentissage, c'est vraiment la question de la répétition. Il faut sans arrêt répéter et remobiliser les connaissances. Donc, le fait de les voir une première fois pour de faux, entre guillemets, sous la forme par exemple d'un poster, comme tu disais, ou ça peut être de livres, etc. Ben nécessairement, après, quand on va le voir en vrai, ça va être très sympa.
Est-ce que, Julie, toi, tu as des petits rituels comme ça à nous partager avant de partir en vacances avec ton fils ?
C'est un petit peu ça, je m'y retrouve. Alors, pas forcément pour l'été, parce qu'en général, on part sur des destinations connues, mais par exemple, sur l'hiver, effectivement, j'ai eu acheté un petit documentaire slash histoire slash autocollant, etc. Sur le ski. Donc effectivement, la partie montagne, tous les, on va dire, tous les noms, tous les mots, le champ lexical autour de la montagne et du ski, le fait de prendre le télésiège, le téléski, que ça s'appelle des œufs, qui a la dameuse en fin de journée qui passe, et vraiment, après, j'ai eu l'avant-après, puisque au départ, on prépare, et bien sûr, c'est l'éveil, c'est l'apprentissage, c'est aussi la projection, puisque du coup, mon fils a imaginé tout ce qu'il allait pouvoir découvrir à la montagne. Et après, lorsqu'il a pu le voir en vrai, ça permet de faire le lien. Et depuis, c'est une histoire qu'on lit très régulièrement, quelle que soit la température extérieure.
D'accord. Ça me fait penser à ce que tu disais, au grand cahier très sympa. Je crois que c'est les éditions Usborne. Avec des, donc c'est un univers graphique que j'aime beaucoup avec des autocollants. J'en ai acheté des caisses pour mes fils. Ça,
voilà, on en a beaucoup. Ça, c'est dans le même état d'esprit. Oui.
Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Sarah, une fois qu'on est en vacances, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, donc là, on a deux pistes qui s'offrent à nous. Typiquement, il y a la piste Julie qui part dans une destination connue, peut-être en famille ou avec des amis. Et là, on va pouvoir peut-être se permettre plus de choses parce qu'on sait que notre entourage, qui ne voit pas souvent nos petits bambins, ont envie de les faire rêver et donc vont se permettre de faire des choses et de mettre en place des activités qu'à la maison et qu'au quotidien, les parents n'ont pas forcément le temps de faire. Donc là, on a la team « on va se salir, les gars ». On va faire de l'argile, on va faire de la peinture, on va faire de la craie de trottoir, on va faire, on va se salir vraiment. En fait, l'été, c'est aussi ça qui est magique, c'est que tout peut se faire dehors quand on parle de créatif, c'est-à-dire qu'on installe, une bâche au sol et puis on peut faire de la peinture, on peut faire
le sablimage,
l'argile, on peut faire du sablimage.
Qui t'en met partout dans la maison et qu'effectivement, le reste de l'année, tu ne veux pas avoir chez toi.
Exactement, mais alors... l'été, c'est aussi ça qui est magique, c'est qu'on peut faire plein de choses dehors.
Ouais.
Notamment, moi, je sais, j'adore sur Pinterest, je vois beaucoup ça l'été, des fresques monumentales qui sont faites à la craie de trottoir. Et l'enfant se met en scène dans sa fresque et puis on arrive à prendre une photo qui est d'une vue aérienne, entre guillemets, enfin hauteur d'un adulte, et ça rend vraiment des visuels qui sont incroyables, et l'enfant est hyper fier de lui.
Ah, c'est génial ça, ouais, jamais vu, c'est cool.
Et puis la crise, ça part.
Oui, ça part avec la pluie.
Avec la pluie, avec le vent, ça c'est pas durable pour toujours, quoi.
Oui, donc on peut faire ça dans les allées du camping, ça marche.
Exactement, on peut faire ça.
Ok, ça me fait penser aussi au land art. Je sais pas si vous connaissez, mais le principe, c'est simplement de créer avec ce qu'on a autour de soi. Donc, on va ramasser des feuilles, du sable, des cailloux avec des formes particulières et on crée une œuvre d'art éphémère. Et donc, on la prend en photo et c'est exactement sur le même principe finalement. L'œuvre, elle reste bon sur la photo et dans notre imagination, dans notre tête, mais effectivement, elle est éphémère. Et là, pour le coup, on n'a pas besoin de grand-chose et ça permet quand même de les occuper un petit moment aussi.
Oui, et ça fait même partie du programme scolaire.
Donc, ah oui, c'est vrai.
Ça fait le lien aussi. Et en général, ils aiment bien réitérer de belles expériences d'école.
Et c'est durable. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais hyper important. Et je pense qu'avec les canicules que l'on vit, puis les orages, puis la grêle, puis la tempête, puis la canicule de cette année, je pense qu'il faut vraiment aussi éveiller nos enfants à l'éco-citoyenneté et d'avoir une activité qui est durable ou en tout cas qui permet de faire de l'upcycling, qui permet d'utiliser quelque chose qu'on peut avoir autour de soi facilement sans forcément consommer et puis jeter, c'est aussi hyper important. Donc tu dis faire du land art carrément, super tendance, mais on peut aussi aller en balade, faire un petit ramassage de galets et puis quand on revient à la maison, on colorie les galets et c'est une petite activité très mignonne qui peut s'adapter, honnêtement, elle peut s'adapter à tous parce qu'un enfant... on va dire qu'il va être plus petit, on va dire autour des 2-3 ans, on va lui faire colorier juste 10 galets de 10 couleurs différentes hyper facilement. Et puis, un ado, on va pouvoir travailler des choses plus fines et puis carrément susciter son imagination. On fait des petites constructions de galets, sur chaque galet, on fait un dessin. Enfin bref, il y a des choses incroyables à imaginer, rien qu'avec des galets et des feutres.
C'est clair. Et les feutres, tu as des marques à recommander ? Parce que je suis pas sûre que tout fonctionne. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser des Posca.
Sur les feutres, si on souhaite vraiment travailler sur des matériaux qui ne sont pas du papier, on va avoir Giotto, c'est les Decor Materials, donc qui existent en une dizaine de couleurs et des couleurs métallisées également. Et on a également chez Posca, tout à fait, les marqueurs Posca qui sont hyper connus, qu'on utilise aussi maintenant en école, qui vont fonctionner sur tout support.
Voilà, c'est en fait la peinture est un petit peu liquide, ce qui fait que justement il y a une bonne couverture, je sais pas comment on dit, couvrance.
Ouais, une couvrance, tout à fait.
J'avais peur de dire une grosse bêtise. et ça fonctionne vraiment très très bien.
Sans aucun doute.
Bon. Ok.
Et donc, on revient quand même à ce sujet de base. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est en vacances ? Donc, il y avait la team.
On se fait plaisir.
Ouais. Je me salis et je me fais plaisir. Et puis, il y a la team. On part à l'autre bout du monde avec valise restreinte. Ouais. Et là, il faut être plus malin. Mais on a plein de choses à retrouver sous forme de coffret. Après, selon ce que l'enfant aime faire, ça peut être une activité calme et tranquille, comme on disait par exemple le coloriage, mais on peut aussi se dire qu'on fait des perles. Il y a un truc qui est hyper à la mode, c'est les perles avec des lettres. Alors, il y a aussi les Aichi, ouais, mais pour les enfants, les perles avec des lettres inscrites dessus, ça, c'est génial parce qu'en fait, ils s'en font pour eux, mais ils en font pour les parents, les frères et sœurs, pour se souvenir qu'ils sont partis à tel endroit de France ou du monde cet été-là, etc. Et du coup, ça devient des petits gris-gris, des petits bijoux qu'on collectionne. Et pour les ados, là, carrément, on part sur les dragons de téléphone. Si vous n'avez pas votre dragon de téléphone avec des perles colorées et les perles lettres cet été, votre été ne sera forcément pas complet. Donc, il faut absolument se faire sa dragon sur son téléphone. Et les perles, c'est une bonne activité.
Oui, puis là, pour le coup, ça fonctionne pareil avec tout le monde, quel que soit l'âge. Bon, il y a toujours une question de motricité, mais ça fait travailler tout le monde, quoi.
Ça fait travailler tout le monde. On est vraiment non-genré sur les activités qu'on va proposer chez Cultura. C'est important de le rappeler, parce qu'en fait, Tout un chacun peut être intéressé par n'importe quelle activité, sans aucun jugement, de n'importe quelle thématique également. On a des thématiques hyper fortes toute l'année. En ce moment, la thématique qui cartonne, c'est le dinosaure, mais elle est accessible à tous les enfants. Enfin, y a aucune distinction à faire.
Ah bon, moi, j'aurais pas parié sur les dinosaures.
Ah ben, c'est le dinosaure va manger la licorne. Hein. Il faut s'y attendre pour cet été.
C'est vrai. Bon, c'est beaucoup moins mignon qu'une licorne.
Ah non, mais il y en a des très jolis, des dinosaures. Oui. Les diplodocus.
Non, le dinosaure est vraiment dans une phase montante. sur la partie des anniversaires, c'est quelque chose que l'on retrouve pas mal. Au coude à coude avec la licorne quand même, parce que je rejoins Sarah sur la phase montante des dinosaures.
Bon, très bien. Et si on creuse un petit peu le côté do it yourself durable, parce que moi c'est effectivement aussi une thématique qui me parle beaucoup. Est-ce que tu as d'autres activités autour de ça? Parce que ça veut dire que là pour le coup, on peut aussi, quand on parlait d'upcycling, de dire je transforme quelque chose que j'ai déjà et donc qui est peut-être pas de base une activité créative comme ça où il faut se creuser juste un peu la tête pour dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec une boîte de petits pois en verre, enfin une boîte en verre, un bocal en verre.
Et ben en fait c'est ça la magie des activités DIY durables et upcycling, c'est qu'en fait tout peut devenir source d'inspiration. Une boîte d'œufs, un bocal, une boîte de conserve, une branche, une feuille, un caillou. En fait, c'est ça qui est hyper chouette. Et puis, si on manque un peu d'inspiration, eh bien, Cultura est là pour vous aider parce qu'on a plein de rubriques sur les activités créatives durables, vraiment DIY, upcycling, etc., toutes ces thématiques-là. Et en magasin également, mais sur les réseaux sociaux, Pinterest, etc., en tapant des mots-clés, on trouve vraiment plein d'idées. Et puis ensuite, il suffit d'avoir des ingrédients de base, j'ai envie de dire, tels que de la colle, de la peinture, des feutres, des crayons. Et en fait, c'est difficile de donner une activité précise qui soit vraiment identitaire, DIY, durable, parce qu'en fait, il y en a une infinie possibilité. Et puis on peut aussi se dire, là si on va à l'extrême, on peut aussi se dire que fabriquer ces savons avec des produits qu'on a dans les placards, c'est aussi une activité créative, c'est aussi une activité durable. Mais là on change de cible d'âge, on se rapproche plus des ados par exemple, ou alors il va vraiment falloir rendre ça ludique avec des colorants alimentaires par exemple, si on veut adresser ça à un plus jeune public. Mais voilà, les activités durables, c'est hyper large, donc peut-être que Julie veut nous citer une activité durable qu'elle a fait dernièrement, mais moi ce sera difficile d'en citer une parmi tout le choix qu'on va voir.
Alors c'est vrai que bien sûr, il y a le sujet des galets, et qui plus est, ça a fait, alors je dirais bien un an et demi, si je ne me trompe pas, qu'on voit fleurir partout des chasses aux galets, des personnes en famille qui ramassent des galets, qui les décorent, et c'est vraiment une activité, même intergénérationnelle, puisque les adultes s'y mettent également, il n'y a pas que les enfants qui le font, et après, au détour d'une balade, ils viennent à cacher les galets dans des endroits divers et variés, ce qui permet à d'autres familles et à d'autres enfants de découvrir les galets, et à leur tour de les recacher à d'autres endroits. Et c'est pour ça que dans certains villages, dans le mien par exemple, on a vu fleurir cette activité. Et sur les réseaux sociaux, on voyait aujourd'hui j'ai découvert tel galet, etc. Et chacun vraiment y allait avec toute sa passion, toute sa créativité. Il y avait vraiment de tout style. C'était, voilà, ça permet aussi de colorer notre environnement. Et puis, il y a ce côté ludique, vraiment très sympathique. Donc, les galets, moi, je recommande plus, parce que c'est vraiment un truc très, très sympa.
Et donc les galets ont été décorés, hein, c'est ça du coup, oui. C'est pas juste des cailloux quoi.
Ils ont été décorés, peints ou avec des feutres, avec du Posca, etc. Mm. Mais effectivement, ils ont été voilà. Et puis on en remet d'autres que l'on vient décorer. Voilà, donc ça devient presque une chasse au trésor de galets.
Ouais, très bien, parfait, génial. Est-ce que là, on a fait le tour un petit peu de ce qu'on peut faire en vacances?
Non, on n'a pas fini.
On n'a pas fini. Oh là là, il y a tellement de choses.
On n'a pas fini. Bon, on en a dit beaucoup, mais il y a les activités quand il pleut.
Non, ça n'arrive pas, ça.
Il faut savoir occuper ses enfants. Ouais, bah, malheureusement, parlez-en à tous les juilletistes de l'année dernière.
C'est vrai, j'en étais. Ouais.
Quand il pleut, il va falloir canaliser ses enfants et mine de rien, les faire sortir. Et c'est toujours important dans la journée. Du coup, la petite idée, c'était d'aller au cinéma. On a de jolies sorties cet été sur le cinéma. Il y a Buzz l'éclair qui est en ce moment dans les salles. Il y a Jurassic World aussi qui est dans les salles. Et du coup, ça nous fait nous persuader que la tendance du dinosaure et de l'espace ont vraiment la côte. Voilà, on peut aussi aller au cinéma. Et puis, c'est une activité en plus qui est familiale, intergénérationnelle. C'est hyper chouette. Une autre activité qu'on peut faire aussi quand il pleut, et Julie va pouvoir aussi nous en dire un petit bout, c'est de la pâtisserie.
Ah oui.
En fait, la pâtisserie, la cuisine, etc., c'est des activités que les enfants adorent. Et puis, il y a une fierté qui se dégage. Il y a de la créativité si on se met à décorer ou à faire des formes, etc. Et sur ça, ça marche à tous les coups, qu'on soit en vacances. On aura toujours un œuf qui traîne, un peu de sucre, de la farine. Et puis, on invente quelque chose, on invente une recette. Puis, si c'est pas bon, c'est pas grave, on aura passé un bon moment.
Oui, parce que même sans avoir tout l'attirail, c'est vrai qu'il y a 2-3 gâteaux. Et en plus, on peut anticiper un petit peu avant de partir. Il y a des choses qui se cuisent au micro-ondes, il y a des choses qui n'ont pas besoin de cuisson, etc. Donc, qu'on soit à la maison, à la maison, on peut faire des choses un peu plus sophistiquées. Et puis, quand on est à l'extérieur, avec une cuisine, mais pas chez nous, il y a aussi des choses qu'on peut faire.
Oui, vraiment, c'est ce qu'on va appeler, on va dire un petit peu dans notre jargon interne, des activités à quatre mains, puisque justement, les enfants adorent faire ce genre de choses avec leurs parents. Pour ma part, je vais sur des choses très simples parce que je suis pas une grande pâtissière j'ai l'envie de faire apprendre, mais pas d'y passer des heures non plus, puisqu'au bout d'un moment, de toute façon, on s'agace, l'enfant perd patience, etc.
Oui.
Donc, il faut aller sur des choses qui soient simples. Personnellement, j'ai découvert la marque Chef Club à ce titre, qui a développé des ustensiles et des moules vraiment adaptés aux enfants. C'est vraiment, ils ont sorti toute une gamme Chef Club Kids, d'ailleurs, je crois, où tout a été pensé vraiment autour de l'utilisation des enfants. Et j'ai investi dans un moule à madeleine. Donc, madeleine, recette très simple, parfait. Et vraiment, le moule, on est sur du silicone, mais semi-rigide, qui fait que, même si le moule va pas très droit en marchant, ça ne déborde pas, ça ne tombe pas. Et vraiment très, très appréciable. Et comme tu le disais, Sarah, derrière... l'enfant est tellement ravi et fier de ce qu'il a, de ce qu'il a fait. Et en plus, il peut le manger, mais c'est parfait.
C'est le jackpot.
Et puis, on fait tout ça dans un cadre hyper sécurisé, parce que tu as raison, Julie, Chef Club Kids, ils ont développé en plus des couteaux avec des bourrons.
Oui.
Donc, on apprend à l'enfant à couper. Et parce qu'un enfant a aussi envie de nous imiter, ça fait partie de son apprentissage, donc d'imiter l'adulte qui fait la cuisine et qui coupe ses fruits, ses légumes et son beurre. Et donc Chef Club, ils ont en effet des couteaux à bout rond qui sont pas dangereux en fait, parce qu'ils vont couper, ils vont couper vraiment que des aliments, ils sont pas pointus, donc c'est vrai que c'est une très bonne option en tout cas si on veut vraiment rendre son enfant plus autonome.
Oui, et puis nous donner un coup de main, accessoirement. Ça peut être pas mal.
Oui, mais bon...
Ça fait partie de l'apprentissage aussi.
Il faut s'armer de patience, parce qu'en général, ça dure quand même oui. Plus longtemps, hein, si l'enfant nous aide, entre guillemets.
C'est vrai.
Voilà.
Ouais. Ok, très bien. Parfait. Est-ce que tu as d'autres activités peut-être au contraire quand il fait super chaud. Alors on fait quoi, des activités
quand
à base d'eau?
Quand il fait super chaud, aller à la piscine. Hein. Ouais. C'est la meilleure des solutions.
Avec de la crème solaire.
Avec évidemment et toutes les protections nécessaires, mais non, forcément quand il fait très très chaud, on s'agace plus vite et puis c'est pas, on est moins créatif parce que on a le cerveau qui est peut-être plus occupé à essayer de refroidir. tout notre corps.
Ouais, d'accord. Donc, jeu d'eau.
Mais par contre, quand la nuit arrive, là, par contre, on a encore de la ressource à proposer à nos enfants. Quand la nuit, ou alors qu'il faut faire un temps calme. Quand il faut faire un temps calme, on a ce produit qui est vraiment super, qui est la Fabrique à Histoire de Looney, qui permet vraiment à l'enfant de faire un temps calme parce qu'il va faire son histoire. Donc, en plus, il est acteur. Il n'est pas passif dans l'écoute. Et en plus, c'est aussi un temps calme pour l'adulte parce que maintenant, il y a Octave, le casque Looney, qui permet à l'enfant d'écouter directement, son histoire dans ce casque qui est adapté aux enfants à partir de 3 ans. Donc, il y a aucun problème avec les décibels, etc. Mais la Looney est un très bon allié, y compris lorsqu'on est en voiture, en voyage, qu'il faut faire une petite pause parce que tout le monde commence à être sur les nerfs. Et ou alors que c'est juste le moment de faire une petite sieste pour trouver le sommeil ou voilà. Et puis la Looney, elle existe. Il y a deux versions qui existent pour les enfants à partir de 3 ans et à partir de 5 ans. Donc selon l'âge de l'enfant, on s'oriente sur l'une ou l'autre.
D'accord. Et tu recommandes jusqu'à quel âge ?
Et ben en fait, j'ai envie de dire quand l'enfant s'en
détache un peu.
Comme un jouet, en fait. L'enfant va se détacher peu à peu. On sait qu'il peut être hyper attaché à des jouets et qu'il ne va pas les lâcher, même si ça ne fait plus partie de son âge et qu'il a clairement acquis les compétences que le jouet permettait de développer. Mais la Looney, ça va être pareil. Honnêtement, facile. Enfin, je me dis vraiment facile jusque 8-9 ans. Ça peut toujours... En fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on aime déjà qu'on nous raconte des histoires, même nous en tant qu'adultes, on aime écouter des histoires. Et c'est pour ça que les
podcasts
fonctionnent si bien. Mais même un enfant, écouter des histoires, c'est hyper entraînant. Et puis après, sur le Looney Store, on va retrouver plein de sortes d'histoires qui correspondent à des âges différents. Donc finalement, est-ce qu'il y a un âge où on arrête d'écouter la Looney ? Je ne saurais pas le dire. Et puis c'est quand on s'en lasse finalement. On ne trouve plus le contenu qui nous convient.
Ouais. Moi, je te posais la question parce que ma fille a 10 ans et du coup, je me dis, mais j'ai sans doute loupé peut-être un peu le coche parce que j'adore l'idée, j'adore le principe et effectivement, je connais le produit depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on, je sais pas pourquoi, on n'a jamais franchi le cap, mais en tout cas, je retiens l'idée pour les plus grands, peut-être simplement des livres audio aussi.
Tout à fait.
Voilà. Là, le principe de la Looney, c'est qu'il est autonome finalement sur la manipulation de l'appareil parce que c'est hyper simple.
Exactement.
Nickel, parfait. Est-ce que tu as d'autres suggestions, d'autres bonnes suggestions comme ça?
La dernière idée que j'avais, c'est qu'une fois qu'il fait nuit, et encore l'été, on est plutôt chanceux parce que le soleil se couche tard, donc il n'y a pas beaucoup de moments nuit où il faut occuper l'enfant, parce qu'il va aller rapidement se coucher normalement une fois que la nuit est tombée. Mais si jamais on a des enfants qui sont difficiles à coucher, bah d'aller observer les étoiles, c'est toujours un moment aussi hyper chouette de retrouvailles. On se rend compte que le ciel, il est le même partout qu'on soit sur Terre, et ça, c'est quand même incroyable. Donc on verra les mêmes constellations, on verra la lune de la même façon. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on peut aussi
Oui, expérimenter.
Transmettre à son enfant. Voilà.
Ok, génial.
Donc, c'était ma dernière petite piste. Et puis si c'est un ciel nuageux, et ben on a des étoiles phosphorescentes où on reproduit les constellations dans sa chambre. Et puis comme ça, on s'aide aussi en comptant les étoiles à s'endormir.
À défaut des moutons.
Voilà. Mais ça, ça marche été comme hiver. Vous pouvez y aller.
Super. Julie, est-ce que tu as d'autres idées comme ça, d'autres suggestions?
Je me retrouve dans les dires de Sarah. C'est vrai que la lunie, c'est quelque chose qui nous accompagne partout, tout le temps. Été comme hiver, et en vacances ou pas. Voilà, c'est finalement, en fait, ça fait partie des rituels. Voilà, si vous avez pris l'habitude de lire le soir une histoire à votre enfant, la lunie, c'est dans le même principe. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge de péremption ou autre. C'est que tant que l'enfant aime les histoires, il va aimer, il va aimer sa lunie, pas de sujet. Et c'est vrai que les âges que l'on peut voir, sur les jouets, sur les activités, etc., c'est tellement propre à l'enfant. Moi, personnellement, je me fie aux âges qui sont notés lorsque je dois offrir un cadeau.
Oui.
Parce que ça m'aide dans mon choix. Par contre, lorsqu'il est question de mon fils, finalement, c'est en fonction de ses affinités. Il y a des choses qui ne sont théoriquement pas encore de son âge, mais pour autant qu'il pratique déjà. Et à l'inverse, des choses, peut-être que Mélanie, tu as déjà entendu parler de la tortue magique qui en général est offerte en cadeau de naissance. C'est une veilleuse en vérité qui projette qui projette des vagues, on a l'impression d'être au bord de la mer, etc. Et voilà, pour ma part, nous avons cette tortue depuis la naissance de mon fils. Et aujourd'hui, il a 6 ans, il l'a toujours tous les soirs pour s'endormir. Et pourtant, il s'agit d'une veilleuse et on pourrait penser que... Enfin, qu'entre guillemets, il est trop grand pour, mais finalement, on le sait très bien et on ne cesse de le répéter. Chaque enfant est différent et chacun évolue à sa manière. Donc les âges, oui, pour les autres, mais finalement, un peu moins pour soi. Dans les activités qui vont faire partie de nos vacances, outre le coloriage, j'ai en tête les perlamas, parce que là-dessus, les perlas repassés... malgré tout, ça prend pas beaucoup de place. Oui, c'est un petit peu minutieux et j'ai envie de dire, il suffit d'avoir un fer à repasser pas très loin. Et en général, en vacances où qu'on soit, sauf si on est dans une tente, ce que je peux comprendre, on arrivera à trouver. Et vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne bien. En plus, il y a eu des kits développés chez Créalia justement, il y en a un sur les dinosaures que mon fils aime beaucoup. Qui permet vraiment... de travailler la dextérité, la précision, même la patience. Donc ça, pour moi, ça peut faire partie aussi de ces fameux temps calmes. Après, j'ai en tête aussi une dernière activité qui est plutôt un jeu pour l'occasion, qui est le... ce sont des aimants, ça s'appelle des Géomax, il me semble. C'est des aimants qu'on vient... assemblés entre eux pour faire des constructions. Et c'est vrai que j'ai toujours un sac à la maison rempli de Géomax et qui me permet de l'emmener partout parce que c'est un petit sac à dos et qui prend vraiment pas de place et qui occupe les enfants vraiment un moment, qu'ils soient tout seuls ou en collectif. Ils jouent tous ensemble à faire des constructions, des énormes pyramides, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui les occupe bien, quel que soit le temps extérieur.
Très bien. Ah oui, ça me fait penser. J'avais quelque chose un peu similaire dans un petit coffret magnétique. C'était peut-être Géoforme ou quelque chose comme ça.
Ça doit être là.
C'est assez similaire. Et il fallait reproduire une figure avec des formes géométriques magnétiques. Et pareil, ça, elles en ont fait beaucoup. Et ce qui est chouette aussi, c'est que dans les activités, si on se prend des activités créatives pour soi, pour en tant qu'adulte, il y a quand même de fortes chances qu'on puisse associer les enfants. Je pense par exemple à l'aquarelle. L'aquarelle, ça se transporte facilement, il faut juste avoir un peu d'eau. Et encore, bon, il y a les pinceaux rechargeables. Mais ça, moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec mes filles. Et puis, la broderie. Parce que finalement, c'est pareil, on peut dessiner assez facilement une petite figure sur un tambour à broder, sur un petit peu de tissu. Et puis, l'enfant s'amuse simplement à faire les contours, par exemple. Donc ça, je trouve que ça marche bien. Et puis comme tu disais Sarah, les bracelets, ça c'est parfait quoi. Donc il y a les bracelets avec les soit les perles Aichi, soit les perles avec les LED dont tu parlais. Après simplement les bracelets brésiliens, il y a des tonnes de tutos, de livres, etc. Et là on a juste besoin de fils colorés.
Ouais, j'ai été surprise à ce sujet parce que j'avais en tête plus jeune en tout cas d'avoir commencé à faire des bracelets brésiliens en ayant peut-être 11-12 ans. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise de voir que même plus jeune, c'est des choses... Bah voilà, par exemple, moi, à la garderie, mon fils apprend à faire des bracelets brésiliens, donc avec des points beaucoup plus simplifiés par rapport voilà, à ce qui peut exister. Mais finalement, oui, tout ce qu'il y a autour du fil, voilà, le fil, les perles, etc. Et comme tu disais, Sarah, il n'y a pas de question de genre.
C'est et ce qu'on peut faire là, pour on va finir là-dessus, mais le Scooby-Doo, on n'en a pas parlé, mais oui. En effet, on peut faire du tissage et du tressage avec le Scooby-Doo et se faire des bracelets en Scooby-Doo. Voilà, le Scooby-Doo n'est pas forcément réservé que au cours de récré parce qu'il s'en porte aussi hyper bien en été pour faire ou ces petits objets, mais aussi ces bracelets. Et ça peut aussi servir pour des perles qui ont un diamètre assez large. On peut aussi s'en servir comme de fil pour se faire ces colliers pour les enfants au plus jeune âge.
Bon, eh ben c'est parfait. On a plein d'idées pour les vacances. Qu'on les passe à la maison, parce qu'à la maison, il faut aussi les occuper. Et puis, qu'on soit à l'extérieur, c'est super. Donc, pour terminer rapidement, est-ce qu'il y a des comptes Instagram ou des comptes Pinterest que vous voulez nous recommander?
Moi, je suis très partisane de recherche par mots-clés et pas par compte oui. Que je suis spécifiquement. Parce que j'ai besoin d'être hyper ouverte sur tout, donc je m'enferme pas sur des comptes. Donc, un bon mot-clé, un hashtag, et puis go, on a plein d'idées.
Oui, j'avoue, Pinterest, de toute façon, et puis... voilà, pas forcément... Enfin, d'ailleurs, je ne suis aucun compte via Pinterest, c'est... Oui. Uniquement avec des mots-clés. Vraiment.
Impeccable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux pour toutes ces idées. On va passer des belles vacances créatives, reposantes et surtout autour de moments de partage avec nos enfants. C'est vrai que le quotidien est parfois un peu speed, un peu intense. Donc, c'est le moment aussi de se poser un petit peu et de faire des bons moments de partage avec nos enfants. Merci beaucoup.
Merci Mélanie. Merci Julie.
Merci beaucoup.
À bientôt. Me revoici. J'espère que vous avez fait le plein d'idées pour cet été. D'ailleurs, partagez vos créations avec nous sur culturacrea.fr. Comme d'habitude, vous retrouverez les références de ce dont on a parlé dans l'épisode sur la page du podcast sur culturacrea.fr. Et si l'épisode vous a plu, laissez-nous une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Ça permettra à plein de fans de loisirs créatifs de nous découvrir. De mon côté, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ça sera mi-août, après une petite pause estivale. Sophie nous a programmé des sujets et des invités plus intéressants les uns que les autres. Je vous souhaite un très bel été créatif. À bientôt !